Première Pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Écopolis sur Bâti Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Bâti Radio, bienvenue dans Première Pierre, une émission proposée par Écopolis qui met en avant les acteurs engagés pour la ville durable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annise Lemary. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes architecte et également fondatrice et gérante de Cycle de Ville, une société organisée autour de trois domaines d'expertise, on peut le dire, relatifs à la construction écologique et durable. Donc une agence d'architecture, un bureau d'études environnement et un labo de recherche sur les thèmes de l'économie circulaire et du réemploi. On en parlera plus en détail dans quelques instants. Voilà, l'idée c'est d'apprendre à vous connaître, de découvrir votre parcours, qui vous êtes, comment vous êtes devenu engagé et comment bien vous avez fondé, créé Cycle de Ville. On va peut-être commencer avec votre enfance. Comment était la petite Annise ?
Alors, effectivement, c'est un bon début. J'ai grandi en Normandie, dans une famille de médecins, de pharmaciens. Mon père et ma mère étaient tous les deux enseignants-chercheurs et médecins et pharmaciens. Et donc, avec une forte attention au corps humain, enfin, l'être humain, au domaine de la santé. Et puis aussi dans un environnement, je dirais, bâti, qui était celui de la basse Normandie, donc celui de la pierre calcaire, qui est très caractéristique de la région de Caen, avec un rapport à l'histoire et à ce matériau qui était très présent, et aussi une très forte proximité avec la nature. Voilà, j'ai grandi dans un jardin, donc on va dire je trouvais refuge dans ce milieu qui était, on va dire, un premier terreau d'inspiration.
Donc ça a développé vos sens, j'imagine.
Tout à fait. Enfin, ça va développer en tout cas une certaine sensibilité à la nature et à l'environnement au sens large, tout comme un début de questionnement sur comment on fabrique les choses. Enfin voilà, mes parents n'étaient pas particulièrement croyants, donc il y avait quand même une tradition scientifique et de questionnement du vivant très présente, et donc ça faisait partie aussi de la manière d'appréhender la vie et le monde qui m'entourait.
Donc toujours cette quête, cette recherche un peu de la vérité, du pourquoi.
C'est ça. Enfin, disons de se remettre en question en tant qu'être humain au milieu d'un écosystème plus large, ce qui n'était pas forcément la pensée dominante à l'époque, en tout cas dans les années 80, et de surtout une certaine un début de prise de conscience de l'impact de l'être humain sur son environnement. Et donc de se remettre en question, je dirais, à l'intérieur de cet écosystème pour réfléchir à son impact dans toutes les manifestations qu'on peut avoir sur le monde extérieur.
Et ça, ce lien entre l'être humain, le corps, et l'extérieur, l'environnement, est-ce que ça vient de vos parents qui étaient médecins ?
Alors, je pense qu'il y a effectivement une très forte, je dirais, inspiration, en tout cas admiration de mon père, qui était donc chercheur, qui travaillait sur la trisomie 21 dans les années 80, et qui a mis au point une méthode de dépistage qui est aujourd'hui pratiquée, et qui faisait partie des comités d'éthique. Donc, je me suis interrogée rapidement sur qu'est-ce que c'est que l'éthique, qu'est-ce que ça veut dire, et du coup, en arrivant assez rapidement à la conclusion qu'il y avait quand même une forme de recherche de cohérence entre ce qu'on disait et ce qu'on faisait, les besoins du monde dans lequel on vivait et ce qu'on allait faire dans le futur. C'est-à-dire que le sens de notre, je dirais pas de notre vie, mais de notre activité devait forcément se porter vers quelque chose qui soit soumis à un questionnement de sens.
Vous avez évoqué la nature. Est-ce que vous avez des souvenirs petites ? Quel était votre lien avec cette nature ?
Alors, oui, quand j'étais petite, j'étais passionnée d'équitation. C'est un détail, mais du coup, j'étais très très souvent au milieu des chevaux, au milieu de la campagne normande, qui est très qui est très proche de la ville en fait. À l'époque, il y avait quand même une facilité à sortir de la ville très très nette. Et puis aussi un fort attachement à une région qui est celle de ma famille paternelle, qui est la Corrèze, qui est très majoritairement verdoyante, avec aussi des pratiques et des gens qui sont dans des activités proches de la nature, comme la pêche. La chasse, c'était pas le cas, mais en tout cas où il y a une série de codes et d'attentions qui font que on s'approche pas de la nature de n'importe quelle manière, et il y a finalement la nature a ses règles propres qui font partie. Disons que si on comprend pas les règles de fonctionnement et les phénomènes qui y sont liés, on aura beaucoup de mal à s'inscrire de manière harmonieuse avec son fonctionnement. Donc c'est vraiment voilà la remise en question de la place de l'homme à l'intérieur de cet ensemble qui était un fil conducteur assez fort au travers de la fonction de la nature et l'architecture plus tard.
Donc l'homme n'est pas au centre, il doit s'adapter à la nature et la respecter.
Voilà, et déjà la comprendre pour pouvoir intervenir de manière pertinente en son sein. Mais c'est certainement pas l'inverse.
Alors vous êtes petite, après vous avez fait des études, comment ça s'est passé ?
Alors, en effet, j'ai fait des études, je dirais comme tout le monde, dans un lycée public, avec une scolarité, je dirais, normale. Mais quand même un certain niveau d'exigence qui fait que si on sortait du terrain balisé de la médecine, c'était compliqué. Donc, c'était le choix entre prépa ou médecine ou prépa. Et donc, en parallèle, je faisais beaucoup de musique. Ça fait partie des codes aussi d'une certaine catégorie sociale. Donc, j'étais pas du tout passionnée par le violoncelle, mais j'ai fait ma petite révolte en faisant du dessin. C'est juste ma manière de manifester mon individualité. Et donc, je voulais rentrer dans une école d'art appliquée. Et mes parents m'ont vite fait comprendre que non, il fallait faire quand même un travail qui on gagne sa vie. Donc, si c'était pas prépa, ce serait médecine, mais il fallait quand même que ce soit scientifique. Donc j'ai à peu près tout essayé pour réussir à m'extraire de cette détermination, on va dire, et j'ai réussi en arrivant en retard à mon dernier examen de médecine, voilà. Donc qui m'a valu une très bonne préparation, je dirais scientifique dans les phénomènes de mécanique des fluides, mais à côté de ça, j'avais quand même pas grand-chose au bout de 3 ans. Et voilà, après ça suffit à convaincre mes parents que fallait quand même peut-être me laisser faire ce que j'avais envie de faire, et je suis rentrée en école d'architecture dans la foulée, qui était presque naturellement ce que j'avais envie de faire depuis très longtemps.
Alors on dit que rien n'arrive jamais par hasard et que au final c'est que inconsciemment on surtout un retard hein, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'était le cas, vous pensez?
Oui, très globalement je suis assez convaincue de cette interprétation, et j'ai vraiment mis de forts moyens pour arriver en retard ce jour-là, bien que ce soit quand même ma caractéristique spécifique. Mais non, je pense que clairement, il y avait une forme de manière de s'opposer, en tout cas de remettre en question là aussi un déterminisme, et puis de trouver un espace de liberté dans lequel j'avais été habituée à grandir et que je n'aurais pas trouvé à l'intérieur d'un système, médical.
Parce que quand vous avez commencé le dessin, c'est venu comment ? C'était une passion ? Est-ce que vous lâchiez en dessinant ? Comment ça se passait à l'époque ?
Alors c'était, je me rappelle très bien, j'étais encadrée dans le cadre de l'atelier Conta à Caen, qui est un peintre aujourd'hui assez reconnu, qui est un type super que j'aime beaucoup, Jean-François Conta. Et il travaillait beaucoup sur la couleur. Et les premiers exercices, c'était vraiment une sorte de page blanche d'inspiration. Mon premier dessin, je me rappelle très bien, c'était un grand arbre dans lequel les racines en fait avaient des espèces d'enchevêtrements très avec plein de formes géométriques très très art déco en fait dans le final, mais c'était une manière un peu d'exploser, je dirais, le carcan un peu élitiste dans lequel j'évoluais, et qui m'a donné une forme de liberté. Mais très rapidement, j'ai eu besoin de aussi placer les choses dans l'espace, enfin apprendre à construire une image. C'était finalement une autre démarche de construction intellectuelle. Donc le dessin, en fait, aujourd'hui, est né un peu comme l'architecture, c'est-à-dire il y a eu des phases, et la première étincelle, ça a été vraiment quelque chose de très libéré et à la fois de très dense, en fait, dans son expression.
Et vous parlez beaucoup de la place que vous avez, que vous occupez dans l'environnement, votre place dans l'espace-temps, la construction. Vous avez besoin de vous repérer, de...
Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a, en tout cas à l'origine, j'ai toujours eu un questionnement sur ça. C'est peut-être quelque chose, sans rentrer dans une psychanalyse très très longue, mais quelle est ma place ici ? Enfin, à quel emplacement je serais le plus utile ? Ou comme s'il y avait une forme d'orchestration, je dirais naturelle des choses et des gens en fonction de leur capacité, de leur qualité ou de leurs défauts. Mais oui, c'est vraiment un questionnement plus sur, je suis là, mais finalement, je pourrais ne pas être à cet endroit-là, où je pourrais être... J'avais une question très un peu étrange que je posais à mes parents quand j'étais vraiment très petite. C'était, mais pourquoi est-ce que je suis dans moi et pourquoi je ne suis pas la petite fille qui est là-bas, qui est peut-être à la rue ou qui habite... Donc, il y avait une question de... en fait, je suis née à cet endroit-là, il y a avec mon histoire, mais je pourrais ne pas être cette personne-là. Et donc, comment je verrais le monde si je n'étais pas celle que je suis ? Et je pense que c'est... Bon, après, c'est une forme d'exercice intellectuel qu'on retrouve après dans une pratique architecturale où on construit pour des gens, où on se projette en fait un peu dans le quotidien de ce que va être une école, une maison de retraite, enfin voilà. Et si on n'a pas fait cet exercice, je dirais, de prendre une petite distance par rapport à qui on est, quelles sont nos valeurs et quelles sont juste ce qui est essentiel dans notre quotidien, c'est plus compliqué. Donc... voilà, c'était une sorte de réflexion un peu en s'identifiant peut-être à d'autres personnes, un exercice que j'ai fait de manière assez spontanée.
Mais ça, c'est très intéressant. C'est vrai que se projeter, se mettre à la place des autres, ça vous l'avez fait. Vous avez commencé à le faire à quel moment? Voilà, s'imaginer là quand vous dites, c'est vrai quand on construit une école, on se met à la place des élèves, on n'est plus soi, on imagine qu'on devient élève. Ça, c'est venu comment? C'est venu avec la construction ou c'était déjà là quand vous étiez
Non, ça c'était déjà là quand j'étais toute petite. J'ai toujours fait cet exercice de... Il y avait quand même une forte empathie dans ma famille, parce que c'est une famille qui a un peu souffert d'un certain handicap. Enfin, on avait une maladie de handicap, de myopathie génétique dans ma famille. Et donc la place de l'attention à l'autre, le fait de faire passer un malade avant quelqu'un de sain, c'était naturel en fait. Si on n'était pas comme ça, on était disqualifiés. Donc il y avait naturellement une forte empathie envers les autres et envers la fragilité des gens en fait. Donc c'était aussi en se mettant à la place des plus démunis ou des plus fragiles, on est forcément dans une forme de réalité qui est un peu différente de celle d'un modèle dominant, c'est certain. Oui. Et voilà, ça c'était vraiment ancré dans cette préoccupation et je pense que c'est assez fréquent chez les médecins.
Oui, se mettre à la place des autres, c'est vrai que c'est fréquent. Comment se sont passés vos premiers pas dans la vie professionnelle? Donc, vous décidez de devenir architecte. Vous l'avez dit, vos parents l'acceptent au final. Ça a été compliqué, l'acceptation?
Oui. Pour être honnête, la première réaction de ma mère a été « Bon, bah, écoute, si tu fais ça, je te coupe les vivres. » Bon, donc, j'étais pas très accompagnée, mais heureusement, mon père était plus, on va dire... souple. Non, mes parents m'ont quand même beaucoup aidé, ne serait-ce que parce que j'ai fait des études qui demandaient de l'aide financière et je reconnais que c'est vraiment un atout capital. Hein. Je pense que beaucoup d'enfants ou de gens très talentueux n'ont pas cette chance. Bon, j'ai quand même travaillé pendant toutes mes études d'architecture, donc que j'ai faites à l'école spéciale à Paris. Et quand j'ai commencé, suite à mon diplôme, la dernière année, j'ai fait un échange en Erasmus à Mexico, dans lequel j'ai commencé à m'intéresser pas mal aux stratégies de recyclage. Donc, Mexico, c'est une ville quand même très polluée, avec des enjeux environnementaux très forts qui ont beaucoup d'impact sur la vie des gens au quotidien. Hein, quand on habite à Mexico, on met quasiment 1h30 pour arriver... au lycée ou à la fac, c'était le cas tous les matins tellement on est pris dans les embouteillages. Voilà, mais et du coup, suite à ça, j'ai pas mal hésité à rester à l'étranger, mais je suis finalement revenue en France parce que la place de l'étranger est toujours très positive. On est toujours plus... Je dirais c'est pas mal d'être différent donc dans ce métier, mais au Mexique, j'ai rapidement compris que la place d'une femme n'était pas forcément très simple dans le milieu professionnel du monde du bâtiment. Donc, je suis rentrée en France. Et là, j'ai commencé à travailler en agence. J'ai eu deux événements qui se sont télescopés. Il y a une rencontre avec un des enseignants de l'école spéciale, qui est Franck Salama, que je salue au passage, qui m'a beaucoup aidée dans le sens où il n'avait pas le temps de s'occuper d'un petit projet de rénovation de chambre de bonne. Il m'a dit, si tu veux, tu viens d'être diplômée, je te passe ce projet, tu t'en occuperas très bien, je te coach un peu. Et puis comme ça, ça te met le pied à l'étrier et tu ne vas pas rester en agence à dessiner. Parce que c'était la phobie de tout le monde, c'était surtout faire architecture pour ne pas être dessinateur d'agence. On vous répète ça dans les études d'architecture. Et donc, effectivement, je n'avais pas du tout envie de travailler pour dessiner en agence, c'était clair. J'ai fait quand même, au moins pendant 2-3 ans, beaucoup de piges, enfin, c'est-à-dire des charrettes pour des concours sur des bâtiments publics, des écoles, voilà, différents sujets au stade des CE, qui sont des stades où on rentre quand même dans le détail de comment on fabrique les choses. Ça m'a quand même donné une bonne expérience de la pratique des bâtiments publics, aussi bien sur les aspects réglementaires que ergonomique. Et puis, très rapidement, je suis tombée sur une annonce. À l'époque, on était donc en 2005-2006, qui était publiée par Franck Boutet, qui était enseignant dans mon école d'architecture, et qui cherchait des architectes pour monter une équipe de consultants sur l'intégration des stratégies de développement durable et du bioclimatisme dans l'architecture. Donc ça m'a intéressée parce que j'étais déjà inscrite à une formation, une des seules formations qui existait à l'époque, hein, parce que pour mémoire, en 2006, on est vraiment au tout début de la réglementation thermique. Donc ce sont des préoccupations qui n'existaient pas du tout avant dans le champ du bâtiment. Et donc je suis allée voir et son approche vraiment était très séduisante. C'est la première personne qui, bon, Franck Boutet est ingénieur des ponts. Et du coup, il avait une approche très, je dirais, très méta, enfin, un peu avec beaucoup de recul sur les rapports entre la forme architecturale et tout ce qui était consommation, en tout cas performance énergétique. Et j'ai appris énormément de choses grâce à lui. Hein. Très honnêtement, c'était quelqu'un qui était un peu débordé. Il devait naturellement s'appuyer sur les gens qui étaient là. Et il donnait quand même beaucoup de son temps pour nous former. Donc c'est quelqu'un qui quand même a beaucoup œuvré pour amorcer ses préoccupations-là dans le bâtiment en France. Et j'ai travaillé pour lui en indépendant, en même temps que je montais ma petite structure pour faire des maisons, des petites extensions, de la maîtrise d'œuvre privée.
Donc il vous a en fait formé, mais en même temps il vous responsabilisait beaucoup puisqu'il vous donnait des tâches, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Enfin, il m'a formé sur le volet environnemental, donc qui était plutôt un métier d'assistant à maîtrise d'ouvrage au final, ce qui était un peu délicat au début, parce que c'est très compliqué de se positionner justement quand on vient d'un bagage architectural où on apprend à être maître d'œuvre, à tenir le crayon, à prendre des responsabilités, etc. Là, il fallait avoir lancé les bonnes études pour donner le bon indicateur au maître d'ouvrage, trouver sa place à côté d'un architecte qui était lui là pour dessiner. Donc, il y avait vraiment un décalage dans le positionnement. Mais en même temps, comme l'ensemble des démarches d'encadrement de la performance environnementale étaient en train de se mettre en place, hein, c'était le tout début du HQE, tout début de tout ça, il y avait des méthodes de travail et d'analyse des projets qui restaient quand même très intéressantes à maîtriser, que ce soit sur les sujets d'imperméabilisation, les sujets de consommation, de performance. Tout ça a été abordé, commençait à être vraiment ancré, et donc de pouvoir, aider des concepteurs à développer ça dans leur projet, ça restait très intéressant. Enfin, on lançait des études qui étaient des études paramétriques, début d'études d'ingénierie, mais qui étaient très nouveaux par rapport à ce qui se faisait à l'époque, puisque rien n'existait quasiment.
Et alors, vous parliez de la place de la femme dans le bâtiment au Mexique, hein, qui était assez dure à trouver en France. C'était comment à ce moment-là?
Je ne sais pas s'il faut que je donne mon joker pour cette question-là, mais en France, à l'époque, hein, donc on parle du début des années 2000, c'est pas il y a pas si longtemps, il y avait quelques figures féminines qui se découpaient, je pense à Brigitte Mettra ou à des femmes comme Zahadid, enfin qui étaient des personnages avant d'être des femmes, je pense, mais enfin qui étaient des femmes mais des personnages, qui étaient quand même très très isolés. Il y avait des couples par contre qui émergeaient, je pense à Monique Masson. Il y avait pas mal de couples qui quand même avaient une identité en tant que couple architecte. Mais bon, faut quand même reconnaître que la grosse dominante était très très masculine. C'est toujours le cas, c'est moins le cas quand même. Oui, et alors au Mexique, il y avait en plus une barrière, la tradition qui faisait qu'il y avait encore moins de femmes, enfin, c'est encore plus exacerbé.
Oui, c'est des métiers réservés aux hommes.
Les cercles de politiques de fonctionnement étaient organisés exclusivement quasiment entre hommes.
Vous avez parlé de votre expérience à l'étranger au Mexique. Est-ce que d'autres pays vous auraient fait envie, vous ont fait envie? Est-ce que vous avez découvert d'autres pays?
Alors oui, j'ai découvert surtout, grâce à Franck Salama d'ailleurs, le Japon, grâce à un voyage avec des étudiants en architecture que donc j'accompagnais avec Franck et d'autres, qui était un voyage ciblé vraiment en architecture. Et là, c'était fascinant. Enfin, le sens du détail, la capacité à travailler des petits espaces et vraiment une maîtrise technique à la fois dans la qualité de la réalisation et la qualité de la conception était phénoménale. Donc c'est oui, ça c'était vraiment une grosse claque. Je pense que le voyage au Japon c'était un peu mon plus gros enseignement. Et maintenant c'est une forme de recherche de style un peu épuré ou de sobriété qui est très ancrée au Japon.
Ils sont en avance sur nous, les Japonais.
Clairement, ils sont. Enfin, je pense que c'est cette comme il y a peu d'espace, il y a aussi et puis la matière coûte cher puisqu'on est sur une île. Je pense que ça participe aussi à avoir cette réflexion et cette sensibilité à l'environnement qui est, c'est pas pour rien que le protocole de Kyoto est né au Japon. Mmh. Enfin, il y a vraiment et puis c'est très ancré aussi dans la culture shintoïste. Enfin, il y a quelque chose de très profond dans l'architecture japonaise. Autant dans la symbolique que dans la matière, la matérialité. On atteint des niveaux de perfection qui sont quand même assez, assez incroyables, je reconnais. Mais ils n'ont pas non plus les mêmes réglementations que nous.
Vous y êtes retourné depuis ? Vous aimeriez y retourner ?
J'aimerais y retourner, non, j'ai pas eu l'occasion, c'est loin, il faut prendre l'avion, ça. Mais non, j'aimerais beaucoup, je pense que ça ferait l'objet de peut-être un prochain voyage, on verra.
Donc, vous travaillez avec Franck Boutet. Après, comment ça s'est passé? Comment d'assistante et puis d'aide, vous êtes devenue une personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat? À quel moment vous vous êtes dit maintenant, j'aimerais faire des choses pour moi, être à mon compte et ne plus avoir de compte à rendre à quelqu'un?
Oui, c'est effectivement une très bonne question. Je pense que bon, disons que c'est un fonctionnement qui était un peu ancré dès le début. Je pense en moi, ça c'est. Ma mère m'a toujours dit, de toute façon, je te conseille de travailler à l'école parce que tu auras beaucoup de mal à avoir un patron au-dessus de toi, surtout s'il est moins compétent. Alors du coup, j'ai bien compris le message. Je me suis dit, effectivement, essaye de travailler un peu. Mais en fait, j'ai toujours été à mon compte depuis que j'ai commencé. J'ai quand même eu assez rapidement le sentiment qu'on n'apprenait pas tout à l'école et que c'était important aussi de passer du temps dans des structures. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes de chez Alto Ingénierie qui m'ont fait comprendre gentiment que ils aimeraient mieux que je travaille pour eux que contre eux. Et non, petit détail que j'ai oublié de dire auparavant, donc quand j'ai quitté, on va dire, je travaillais à mon compte, une des personnes que j'avais rencontrées dans le cadre de l'activité de chez Franck Boutet, une architecte qui s'appelle Nassim Tseraji, m'a sollicité pour me dire, écoute, j'ai un projet, on a besoin d'être accompagné sur ce volet-là, je sais que tu es à ton compte, et si tu veux, moi ça m'intéresse qu'on travaille ensemble. Donc j'ai travaillé pour Nassim Tseraji sur un bâtiment dans le sud de la France. Il se trouve que par hasard, c'est un peu un concours de circonstances, le maître d'ouvrage qui était la chambre de commerce de la Côte d'Azur, c'était le premier bâtiment qui visait un label BBC. Donc je vous dis, c'est la préhistoire. Et c'est 2008. Avait besoin d'un AMO. Et donc il m'a dit, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le rôle de l'AMO? Donc j'ai dit, allez, ok, j'ai endossé le rôle de l'AMO. Donc c'est un peu par la force des choses, je dirais, que je suis devenue AMO à mon compte, parce qu'il y a eu une demande, que j'étais sur le projet, et puis finalement, de fil en aiguille, on n'était pas très nombreux à l'époque à faire ça, à le faire de manière indépendante, sauf dans des grosses structures comme Egis ou d'autres. J'ai eu finalement des propositions qui sont venues d'architectes et de maître d'ouvrage, et donc Alto, qui est un bureau d'études fluides à l'époque, me voyant arriver sur un petit circuit de concurrence, me dit gentiment, ce serait bien que tu travailles pour nous. Donc m'ont sous-traité à un projet, et puis m'ont proposé un temps partiel en fait. Ce qui m'arrangeait assez bien, parce qu'on était en 2008, c'était le début de la crise, et que j'avais un enfant en bas âge, donc je me suis dit, oh là, mettons-nous peut-être aussi un peu à l'abri. Bon, c'était pas que pour ça, j'avais une curiosité de mieux maîtriser aussi des sujets techniques, qui était essentiel dans la question environnementale. Et donc, je suis restée 5 ans là-bas. Voilà, du coup, c'était... Ensuite, j'ai eu une autre expérience dans un autre bureau d'études qui m'a chassée, on va dire, par l'intermédiaire d'un chasseur de tête. Et là, on va dire, les convictions environnementales, ce qui n'était pas le cas chez Alto, qui était très cohérent, en tout cas, entre le fond et la forme de ce qui était fait, étaient beaucoup moins assurées. J'ai eu un peu le sentiment de cautionner des arguments environnementaux sans que la direction soit en réalité vraiment engagée. Et...
C'est quoi du greenwashing ?
C'est une forme de greenwashing, mais disons que, pour le dire de manière un peu plus polissée, les questions et les avantages économiques passaient en premier lieu et étaient bien plus prépondérants que les questions de conscience environnementale ou de voilà. Donc il y avait une forme, je trouvais, de un peu de reprise en tout cas ou de manipulation des arguments environnementaux en fait au service d'une machine à où en plus il y avait quand même beaucoup de stagiaires. Enfin bon, c'était pas très ça j'ai beaucoup. Je trouve qu'on travaillait beaucoup pour la question du sens est devenue centrale pour lui. Ouais. On travaillait beaucoup sans bien comprendre quels étaient les objectifs ou en tout cas en comprenant rapidement que les objectifs de la direction n'étaient pas vraiment les mêmes que les miens.
Donc ça, c'était Alto, donc c'était de 2008 à 2013.
2014.
Et donc ça, c'était après...
Après, je suis restée un an et j'ai, on va dire... je pense qu'on s'est mutuellement rapidement rendu compte qu'on ne se correspondait pas. Et du coup, j'ai trouvé une sorte de porte de sortie en ayant quand même lancé 2-3 sujets d'économie circulaire en interne. Pour demander un DIF. Donc, j'ai proposé de monter une cellule d'agriculture urbaine en intrapreneuriat. Donc, on m'a répondu que, bon, OK, si je pouvais rester à ce compte-là, on acceptait ma demande. Donc, je me suis inscrite en BTS d'horticulture à Angers. Et au moment où le DIF devait prendre action, on m'a gentiment fait comprendre que, bon, on avait d'autres chats à fouetter. Donc voilà, nous avons trouvé un accord de rupture conventionnelle qui s'est très bien passé. Tout le monde a été très correct. Mais donc, j'ai fait mon...
Vous avez continué,
j'ai continué, en montant cycle de ville en parallèle.
Alors, pourquoi l'horticulture ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là ?
Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y avait... disons que j'avais quand même une forme de ras-le-bol de tourner autour de la technique tout le temps, bâtiment. Et puis, j'avais aussi conscience que c'était... il y avait quand même une de plus en plus d'interactions entre le monde urbain et le monde rural. Et que le fait d'aller végétaliser la ville était, en tout cas, en train d'émerger. En tout cas, était un besoin qui était en train de naître. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est encore une fois, c'était vraiment de comprendre comment fonctionne le vivant, les interactions entre, les substrats et les plantes. Enfin, d'avoir une vision très élargie de ce domaine-là. En prenant conscience qu'il faisait aussi partie du champ du cadre bâti.
À l'époque, c'était pas courant de végétaliser la ville, c'était l'inverse. Comment vous êtes dit, vous, comment vous êtes allé à l'inverse des tendances ?
Alors, je suis allée à l'inverse des tendances, mais pas complètement. En fait, j'avais rencontré, probablement vous devez le connaître, mais l'équipe de Topager, qui sont Frédéric Madre et Nicolas Bell, qui étaient sur un projet que je trouvais incroyable. Et donc, je leur ai proposé de développer ce sujet-là donc en interne, dans l'ancienne entreprise. Ça a plutôt matché. Le fait d'avoir une approche architecturale aussi, potentiellement, c'était intéressant pour eux. Donc, j'ai un peu travaillé sur l'histoire de modèle économique pour une production de fleurs à Aubervilliers, en faisant mon stage un peu là-bas. Et c'est en me rendant compte que d'autres pays comme New York, où j'avais passé quelques mois pour mon stage de deuxième année d'architecture, lançaient quand même des projets avec des modèles économiques qui tournaient, et de se dire qu'on rapprochait le point de production et le point de consommation, même si c'est plus tout à fait le sujet, parce qu'on parle plutôt de lien social dans le jardinage maintenant que de réelle production. En tout cas, il y avait quelque chose qui était en train de se passer, qui était intéressant au niveau de l'utilisation des sols et de l'utilisation des bâtiments. Et c'est cet aspect-là que je trouvais vraiment pertinent. On recréait un lien différent avec d'autres acteurs autour d'un bâtiment où, en effet, on pouvait considérer que c'était des espaces perdus et que, voilà, on tirait parti de ces espaces pour accueillir une faune, une flore qui trouvait pas d'espace à l'heure où on parlait, puisque rien n'était aménagé pour eux, en fait. Le retournement de, enfin, c'est un peu comme le retournement de la situation, de dire, en fait, c'est pas à la nature de s'adapter, c'est l'inverse, finalement. Créer les conditions bénéfiques pour que ces espèces viennent coloniser des éléments qui sont, on va dire, artificiels.
Mmh. Ouais. Et à l'époque, c'était quand même précurseur de voir les choses comme ça, parce que parler des sols, parler de... ça se faisait pas tant que ça. C'était un peu la toute-puissance, l'homme qui fait ce qu'il veut dans la ville, qui étend la ville.
C'est ça. Après, je pense que c'était aussi... Enfin, disons, ça faisait partie d'une espèce de désobéissance que j'ai intrinsèquement. C'est-à-dire de se dire... Il y avait beaucoup d'acteurs qui commençaient à pratiquer une sorte de... Ils appelaient ça des guérillas urbaines. Ils balançaient des bombes de graines sur les bâtiments à Barcelone. Enfin, il y avait toute cette mouvance-là que je fréquentais un peu à l'époque.
Mieux que de la peinture sur des tableaux.
Voilà, c'était une autre manière de manifester le besoin de retrouver une place pour la vie à l'intérieur du cadre bâti, ce qui est quand même un paradoxe de fou, parce que si on se dit qu'on construit justement pour héberger de la vie, on ne va pas se mettre à éliminer toute forme de vie autre que vie humaine. Voilà, donc c'était un peu, je pense, une action un peu punk.
Vous avez un petit côté pas rebelle, mais vous avez besoin en fait de vous challenger, de prouver un petit peu.
Oui, je crois que intrinsèquement, j'ai un peu ce. Je m'amuse pas quand je suis dans j'ai un peu le syndrome de l'alpiniste, quoi. C'est-à-dire celui qui a besoin de tracer le sillon, sinon il s'ennuie en fait un peu derrière. Il y a un peu de ça. Après, j'ai pas la prétention d'être non plus comme les grands alpinistes, mais oui, je pense que fondamentalement, j'ai besoin d'avoir le sentiment de défraîchir un peu le terrain et de questionner un peu l'ordre établi. Il y a un peu, pas forcément de tout révolutionner en tout envoyant bouler d'un coup, mais plutôt de me dire, mais ça se passe comme ça aujourd'hui, pourquoi ça se passerait pas autrement? Et d'ailleurs, je pense que c'est cette vision-là qui me fait avancer. C'est-à-dire, si on me dit non, tu peux pas faire ça, tout de suite, ma première évidemment réaction, comme beaucoup de gens quand même, c'est mais comment ça, vous me dites que je peux pas faire ça, mais en fait, peut-être qu'on peut, moyennant telle et telle disposition, en fait, s'y arriver. Enfin, c'est comme s'il y avait comme ça une espèce de besoin de repousser les limites pour avancer, pour avoir le sentiment d'avancer.
Beaucoup de gens ont cette réaction, mais peu passent à l'action derrière. Ça vient d'où, ça, ce besoin de rebondir, de vouloir passer à l'action, de prouver que autre chose est possible?
C'est une très bonne question. Je pense que j'ai dû être exaspérée par les heures de réunion où tout le monde parle autour d'une table et en fait rien n'avance. Et en fait, on finit par se dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette réunion qui est censée être une réunion autour d'un projet? Et on a perdu du temps. Et en fait, il s'est pas passé grand-chose. On est dans un petit cercle un peu d'entre-soi. Donc, c'est pas... Et du coup, je pense que c'est aussi un petit peu peut-être l'inspiration des pays, je dirais, en voie de développement, dans lequel le système D, c'est la manière de fonctionner au quotidien. Et on se pose pas la question, on fait en fait. Et après, on réfléchit. Alors, je dis pas que c'est tout le temps comme ça qu'il faut faire, mais parfois le passage à l'action. En fait, je suis une fervente défendrice du passage à l'action, évidemment
bénéfique. Plutôt que ratiociné.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire de se dire qu'en fait, on apprend en faisant la plupart du temps, et c'est quand même un point de vue assez partagé, et que même si, quand on a d'expérience ou de pratique, j'ai toujours un peu été effrayée par ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'architectes de ma génération ou de la génération plutôt d'avant, mais je ne leur jette pas la pierre parce que la commande publique était faite comme ça. C'est-à-dire qu'ils construisaient en briques une fois et après, ils ne faisaient que des bâtiments en briques parce qu'ils étaient reconnus pour construire en briques. Et donc, s'ils faisaient autre chose, ce n'était plus eux. Et donc ça, premièrement, c'était un petit peu agaçant de se dire qu'on s'enferme dans une technique et que du coup, il y a énormément de potentiel et c'est encore plus vrai dans le réemploi et dans l'idée que l'architecte est quand même censé être un peu, mettre en musique, enfin, se poser la question de la limite du matériau sur lequel il intervient et d'utiliser au mieux les limites et d'avoir l'intelligence de ce matériau pour le mettre en œuvre d'une certaine manière et de pouvoir avoir un peu plus de dextérité que la personne qui n'a pas fait 5 ans d'études. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Mais, et du coup, si on ne questionne pas la limite du matériau en tant que tel, ben on fera toujours des maisons en parpaing avec un double pente et des lucarnes, c'est sûr. Alors que quand on revient à une certaine sagesse ou connaissance de la matière et qu'on se place dans une... je pense que l'architecte, en tout cas l'architecte, il est obligé de se poser cette question des limites et du dépassement des limites. Sinon, c'est pas vraiment de l'architecture, je pense.
Les catastrophes climatiques vous ont beaucoup touché aussi?
Oui, alors effectivement, comme tout le monde, après je partage un certain niveau de scepticisme quant à notre capacité à vivre ensemble d'une part et à maintenir la planète dans ses limites actuelles. Mais
par rapport à quoi? Par rapport aux autres pays?
Non, de manière un peu générale, je pense qu'on peut pas dire que l'évolution des climatique soit très très positive, donc je ne sais pas très bien où on va et je pense qu'on a tous conscience qu'on a quand même de profondes transformations qui vont arriver dans les années à venir. Mais je ne sais pas, j'essaye de garder un peu l'idée que comment dire, que il y a une forme de résilience, c'est-à-dire que de toute façon, on va être obligé de s'adapter, qu'on n'a pas, on trouvera pas de méthode magique ni dans les 10 prochaines années, ni dans les 30 probablement. Il y a eu petit à petit, depuis les années 80, beaucoup de montée en puissance de ces alertes. Quand j'étais enfant, c'était la préservation de la nature. Il y avait beaucoup d'actions avec le WWF qui touchait les enfants. Enfin, nous, on avait quand même beaucoup de... Je pense que ça a quand même beaucoup marqué mon enfance, enfin l'enfance de ma génération. Et qui sont montées en puissance petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de réchauffement climatique. On a commencé à en parler quand même dans les années 90. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus présent dans la conscience collective. Voilà, pour être partagé aujourd'hui quand même, la plus grande majorité de la population mondiale est assez convaincue qu'il y a un problème. Après, de savoir ce qu'il faut faire pour limiter la casse ou réduire le problème, c'est un sujet beaucoup plus compliqué, où chacun a effectivement un rôle à jouer, mais où les dirigeants majoritairement la main.
Donc le sujet touche beaucoup de monde, mais après, quand ça concerne la sobriété, au niveau personnel, c'est un peu plus compliqué.
Bah, disons que voilà, chacun fait ce qu'il peut à son échelle. Voilà, moi, je suis architecte, aujourd'hui, je ne voyais pas me positionner autrement qu'en ayant une démarche engagée sur ces sujets du choix des matériaux, de manière de concevoir des bâtiments pour bien les orienter, enfin avec des réflexes somme toute très simples, hein, de conception, mais si c'était pas ancré dans ma pratique, je vois pas tellement quel intérêt ça pourrait avoir en ce qui me concerne. Alors je dis, il y a peut-être des gens qui vont moins loin, chacun aussi va mettre son niveau d'exigence. Il y a aussi des gens qui décident que c'est pas leur problème et que voilà, ils font de l'intérieur et que c'est la moquette choisie n'est pas leur problème. Bon, voilà, c'est vraiment une question très personnelle de jusqu'où on met nos curseurs d'ajustement, est-ce qu'on est capable d'accepter ou pas.
Et vous, pourquoi votre curseur est à ce niveau-là? Qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que c'est en tant que maman? Est-ce que c'est...
Je pense que c'est une bonne question. Effectivement, en tant que maman, on est forcément, même pas forcément maman, je pense que naturellement, on peut avoir une sensibilité plus forte à l'environnement et à nos impacts. C'est une question d'éducation, je dirais presque. Et après, je pense qu'il y a aussi une forme de réaction par rapport à beaucoup de bullshitting ou de fausses bonnes idées comme le recyclage, comme en tout cas qui sont nées dans les années 2000 où tout le monde cherchait à trouver l'argument environnemental positif juste pour avoir une étiquette verte sur son projet. Et à force de voir ça, je pense que je suis arrivée à une forme de d'exaspération, en fait, de me dire, mais c'est, en fait, ça sert à rien, tout ça. Si on fait pas des choix un peu engagés, il ne se passera rien. Et on continuera à construire comme on construisait il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je dis pas que c'est simple, hein, évidemment, il y a toute une filière à mettre au point, il y a des questionnements au niveau du réemploi. C'est vraiment des choses qui doivent avancer collectivement. Mais je dirais, si on était plus nombreux à avoir une pratique engagée sur ces sujets-là, et ben, je pense que les décideurs auraient aussi un autre positionnement.
Alors, c'est quoi un choix engagé pour un architecte, par exemple ?
Ben, un choix engagé, c'est construire en réfléchissant au mode constructif pour limiter les quantités de béton. Alors, c'est pas dire non au béton vraiment de manière radicale, mais plutôt, bon, la phrase n'est pas de moi, mais disons que d'utiliser le bon matériau au bon endroit, voilà. Mmh. Et dès qu'on peut libérer, par exemple, les porteurs, au lieu de couler des voiles béton, on peut tout à fait passer en poteau poutre. D'un point de vue, c'est économiquement parlant intéressant, écologiquement parlant aussi, pour venir incorporer le moins de matière possible, c'est-à-dire d'arrêter avec je vais systématiquement doubler tous mes plafonds, et tous mes sols et tous mes murs avec du BA13, de la peinture. Enfin, ça, c'est des réflexes de conception qu'on avait dans les années 90-2000 qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Enfin, si on ne réfléchit pas à systématiquement se poser la question de est-ce que ce matériau est vraiment indispensable dans ma mise en œuvre, autrement pour des aspects, je ne dis pas qu'il faut éliminer toute forme de caractère ou d'identité des lieux, mais on n'est pas forcément obligé de dépenser des matériaux supplémentaires inutiles pour ça. Et donc, c'est vraiment se poser la question à chaque fois de... Beaucoup d'architectes le font, hein, je ne dis pas que moi, mais d'avoir cette approche vraiment très de réflexion à chaque fois. Est-ce que cette déconstruction est utile ? Est-ce que la mise en œuvre de ce matériau est indispensable ? Si j'ai le choix, pourquoi est-ce que je ne peux pas choisir un matériau moins impactant qu'un plus impactant ? Enfin, en tout cas, d'avoir une vigilance à chacune des étapes de la réflexion et des choix qui sont faits par l'architecte, parce que on fait des choix tout au long du processus, pour limiter les impacts à toutes les échelles. Et ça suppose effectivement une méthode de travail qui est un peu systématique et des réflexes tout simplement de conception où on va se dire « Ah, bah tiens, si je mets mes... » Bon, je ne vais pas vous faire le coup des vitrages au sud et puis c'est le béaba du bioclimatisme, mais en tout cas, d'essayer d'aller plus loin et de pas tout de suite répondre au maître d'ouvrage qui veut... Enfin, je vais citer personne parce que c'est pas le lieu, mais qui veut... les locaux ont 2 ans, on veut quelque chose de neuf parce que le COMEX a décidé que tout devait être neuf, voilà, pour une histoire de mode en fait. Et donc, à ce prix-là, on va déposer des robinets encastrés qui seront non réemployables, des carrelages qui ont moins de 2 ans, qui sont encore très qualitatifs. Enfin voilà, ces réflexes, je dirais, modeux et un peu déconnectés de la réalité... sont plus pensables en fait aujourd'hui de mon point de vue, voilà. Mais donc c'est d'avoir ce raisonnement. Alors effectivement, parfois on a certaines limites, les limites budgétaires sont des sujets. On a des clients qui des fois voudraient bien faire tout en ossature bois, béton de chanvre, laine de bois et tout biosourcé, et puis qui au bout d'un moment nous disent là, je peux pas, j'ai une plus-value de 15% et il faut l'entendre aussi. Mmh. On peut pas non plus.
C'est une contrainte importante.
On peut en tout cas pas faire fi de ça. Mmh.
Annelise, l'émission se termine, on va se quitter. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous donner un de vos livres préférés, un livre qui vous a marqué ou un livre qui est important pour vous ?
Alors, je me suis posé la question tout à l'heure en préparant l'émission, mais je pense à 2 livres. J'aurais du mal à les départager. Le premier, c'est un livre de poésie que m'a offert mon père quand j'ai eu 15 ans, qui s'appelle « Lettres à un jeune poète » de Rilke. Et je trouve que c'est un excellent bouquin à lire à 15 ans. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment pour garder l'état d'esprit de la période de l'adolescence, qui est à la fois un peu... je dirais, à remettre en question les choses, mais en même temps, la recherche d'une sorte de poésie. C'est vraiment mon bouquin de chevet. Et puis le deuxième, c'est Les pierres sauvages de Fernand Pouillon. Mmh. Voilà, architecte qui est quand même absolument incroyable, que je vous recommande d'ailleurs, voilà, qui parle des pierres merveilleusement bien.
Et une musique ? On se quittera justement en musique, une musique qui est, voilà, qui est symbolique pour vous.
Alors, pour la musique, j'ai je dirais plutôt une musique qui appartient un peu à l'univers punk, qui fait un peu écho à l'idée de, voilà, de en tout cas, questionner, remettre en question l'ordre établi. C'est une musique d'Iggy Pop que j'aime bien, qui s'appelle The Passengers.
Voilà, pour repousser les limites. Merci infiniment, Annelise Lemary, pour cette belle émission. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro de Première Pierre.
Pierre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.